Eh bien, merci à vous. Je remercie Claro d'avoir accepté notre invitation, lancée il y a fort longtemps.
C'était en 85.
Voilà. On s'est dit, le jour où tu arrives à faire une collection qui dure 10 ans, alors tu seras notre invité. Voilà. Et donc, depuis quelques semaines, nous honorons avec force démonstration la collection Lot 49, qui est la chose, la création de Claro, enfin sans doute son plus beau bébé. Et pour lequel on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de faire venir, de rencontrer quelqu'un que nous avions invité il y a 2 ans pour nous parler de son dernier livre qui était Tous les diamants du ciel, un livre que nous avions particulièrement aimé. Et là, d'inviter Claro, mais qui a différents talents pour nous parler aussi de ses autres talents.
Alors on va moins. Je te remercie de dire talent au lieu de casquette, ça change.
Oui, voilà. Donc il ne va pas porter le chapeau pour son rôle d'auteur, mais de ses autres rôles. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, je pense, avec Claro, c'est la capacité à ne pas rester cloisonné dans un métier, dans une pratique, ce qui est souvent le problème en France, où il est toujours très suspect d'être en même temps traducteur, éditeur, auteur. Et voilà, ça, voilà. J'ai appris une chose, que Claro fête son anniversaire le même jour que Patrick Bruel.
Ouais.
C'est un signe, c'est-à-dire que ça peut ne rien vouloir dire, mais ça peut vouloir dire quelque chose aussi. Il y a peut-être un chanteur qui se dissimule aussi, enfin il y a aussi un autre talent peut-être.
Ou un joueur de poker.
Ou, voilà, enfin, ce sont des petits signes, en tout cas il assume, c'est le genre de choses qu'il assume, hein, parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas lu dans un magazine secret, un magazine People. Alors il est donc auteur, il est traducteur, il est essayiste, il est directeur de collection, il est blogueur, je ne sais pas si on appelle ça, enfin en tout cas il anime un blog très couru, qui s'appelle Le Clavier Cannibale. En tout cas, il se sert beaucoup de son clavier. C'est un grand claviériste, Claro. Ses derniers romans, c'était Cosmos, donc, et Tous les diamants du ciel, qui est des livres qui ont, on peut le dire, rencontré un public, un vrai public, à la suite d'une carrière de romancier qui a commencé, si je me rappelle bien, en 86, et au tout début de la maison Arléa. Voilà. Alors, Lot 49, c'est une liste de noms. On a fait, en préparant l'anniversaire de la collection, on a fait un peu le point et on s'est rendu compte que les noms étaient assez impressionnants. Il y a une centaine de titres maintenant, je crois. Ou une cinquantaine de titres, je ne me rappelle plus.
49.
Brian Evenson, Richard Powers, Ben Marcus, Christophe Miller, Paul Harding, qui sort un roman à la rentrée que j'ai commencé à lire, qui est merveilleux. William Volman, Lydia Millett, et bien entendu, William Gass. Et très récemment, alors je vous reconseille vivement, L'univers de carton de Christophe Miller, qui est un livre extrêmement drôle. Et complètement ahurissant, bien entendu, mais d'une drôlerie sans nom. Voilà. Alors, lire, écrire, traduire, donc on te renvoie toujours vers ces verbes, éditer. Est-ce qu'on peut dire, de façon un peu générale, que ce sont les mêmes faces d'un seul dé ?
Ça fait combien de faces ?
Ça en fait 4, 5, mais je peux trouver d'autres choses. Hein. Il y a la chasse au sanglier,
il y a des choses. Il y a 6 faces en principe. Mais... Bah, de toute façon, c'est des évidences. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui écrit est forcément un lecteur. Alors, évidemment, un lecteur de livres, mais il est aussi un lecteur de ce qu'il écrit. Écrire, c'est aussi apprendre à lire, à se lire. Il y a un moment où le travail d'écriture fait qu'il faut bien se relire pour travailler ce qu'on a fait. Donc on devient une espèce de lecteur, mais très actif forcément, puisqu'il a le droit et même le devoir d'intervenir sur ce qu'il a écrit. Donc de toute façon, ce sont des choses qui sont liées, et peut-être aussi que dans la lecture, il y a une forme d'écriture, hein, puisqu'on fait résonner avec d'autres lectures, on prolonge en imagination, on comble des trous, on s'approprie la chose. Donc de toute façon, pour moi, c'est vraiment lié. Alors l'édition, c'est une espèce de prolongation comme ça du désir de lire, du désir de lire et d'écrire. La traduction, on va pas, c'est une évidence aussi, c'est une forme d'écriture. C'est une forme de lecture, hein, puisque quand un traducteur, quand il ouvre un livre en anglais, il le lit, mais bon, s'il a derrière l'idée de le traduire, en fait, il est déjà en écriture. C'est-à-dire qu'il commence à lire les phrases en anglais dans sa tête, et déjà, il y a le français qui commence à essayer de monter sur la scène, à apparaître, à surgir comme ça derrière les phrases qu'il lit, donc c'est toujours en décalé. Donc voilà, après, c'est des activités qui, en plus... se motivent, se complètent. Voilà, moi, je pense que tous les gens qui écrivent, par exemple, ben, ils savent que quand ils sont en train de lire, au bout d'un moment, ils ont envie de fermer le livre pour se mettre à écrire, parce que un des peut-être des principes de la chose, c'est que la lecture n'inhibe pas le lecteur qui veut écrire. C'est-à-dire que, évidemment, vous lisez Proust, vous pouvez vous dire « Ah, je ne ferai jamais mieux ». Et puis, dans un deuxième temps, très rapidement, vous vous dites « Mais enfin, le but n'est pas de faire mieux », parce que, justement, on a la chance d'échapper à un monde qui est dans la compétition et la concurrence. Donc, en fait, voilà, ça inhibe, c'est pas censé inhiber, ça ne le fait pas. Et au contraire, ça donne envie d'écrire, parce que ça remue le langage, ça remue l'imagination, c'est formateur. Donc, on passe de l'un à l'autre en permanence. Pour peut-être revenir à l'O 49, c'était le... voilà, moi en général, je comme pas mal de traducteurs, quand je découvre des bouquins, enfin même si on découvre rien, mais bon, je trouve des livres, j'ai envie de les faire connaître, et en général, après, bon ben, je fais comme tous les traducteurs, je démarche des éditeurs pour essayer de trouver le bon éditeur qui pourrait être intéressé par ce livre-là. En général, bon voilà, ça se passe bien, ça peut prendre du temps. Hein. Par exemple, quand je suis tombé sur un auteur qui s'appelle Volman, pour le faire connaître, ça m'a pris quand même 5-6 ans avant de trouver un éditeur qui soit prêt à se lancer là-dedans, mais aussi parce que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, comment on convainc et comment on harcèle un éditeur. Donc voilà, j'arrivais à trouver chaque fois une place pour des auteurs. Je n'avais jamais pensé du tout à faire une collection, ce qui effectivement est pratique. Et puis, un jour, il y a un livre que j'aimais vraiment, donc, qui est le Tunnel de William Gass, que j'avais lu donc en américain. C'est un livre très particulier. L'auteur a mis 30 ans à l'écrire, en s'arrêtant, bien sûr. Des extraits étaient parus dans la presse. Donc déjà, avant même sa parution, c'était un livre qui était devenu mythique en littérature américaine, dont on attendait la parution, qui n'est pas d'un abord très facile, enfin bref. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais faire comme pour les autres livres, je vais démarcher. Et là, je suis vraiment tombé sur un os, c'est-à-dire qu'aucun éditeur n'était intéressé. Gallimard, non. Le Seuil, non plus. Enfin, je faisais vraiment tous les gros éditeurs qui étaient un peu susceptibles d'être prêts à perdre de l'argent. Même Actes Sud, à l'époque, avait hésité, enfin bref. Et donc, j'en avais parlé un jour dans la presse en disant, voilà, on m'avait demandé s'il y a un livre que vous aimeriez traduire. J'avais dit, Le Tunnel de William Gass. Et quelques jours après, je reçois une lettre d'un type que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Arnulf Marcher, qui travaille au Cherche Midi. Comme quoi, les contes de fées existent. Et qui me dit, ah oui, moi, j'aime beaucoup ce livre. Si vous voulez, on le fait ensemble. Alors, évidemment, dans un premier temps, j'étais ravi, même peut-être méfiant aussi. Et à la fois, je ne voyais pas du tout ce que Gass pouvait aller faire au Cherche Midi, qui est un éditeur... qui fait plutôt des livres sur les bons mots, les pensées de Pierre Dac, ou des choses comme ça, ou des livres institutionnels. À la fois, bon, j'ai quand même rencontré ce type, parce que c'est là où on comprend que l'édition, c'est quand même des gens qui la font. Il y a des images, effectivement, voilà, mais de même qu'on peut avoir une image peut-être divine de Gallimard, à la fois, il y a aussi d'autres choses dedans. Donc, ce qui est important, c'est surtout c'est les personnes qui sont à tel moment, à tel endroit, et qui sont capables de faire des choses. Donc, j'ai rencontré Hofmarcher, on a parlé. Donc, j'ai vu que son intérêt pour le tunnel était vraiment sincère. Voilà, il se trouve qu'il est co-directeur général du Cherche Midi, donc il avait tout à fait les pleins pouvoirs pour se lancer là-dedans. Mais à la fois, effectivement, je lui ai fait remarquer que Cherche Midi, c'était quand même bizarre, quoi, de faire ça après les pensées de machin ou de bidule. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, il faut peut-être, effectivement, pour aider le livre, parce que c'est toujours la question, c'est pas juste, allez, on aime ce livre, on le fait, on se lance dedans, on claque plein de pognon en traduction, en fabrication, etc., et on le laisse partir. Non, il faut pas laisser partir, il faut qu'il puisse avoir une vie décente, correcte, proportionnée à sa difficulté. Donc, c'est pas juste pour se faire plaisir et dire voilà, on l'a fait, et puis après, ben, si on en vend trois, c'est un peu dommage. Parce qu'après, ça, on va dire que c'est dommageable, c'est préjudiciable pour l'auteur, parce que ça va être très dur de faire d'autres livres de lui. Donc, on s'est dit bon, peut-être il faut, alors c'est pas un écrin à ce bijou, mais en tout cas, quelque chose de plus solide autour. Peut-être qu'il faut pas commencer par le tunnel. Et de fil en aiguille, en discutant, ben, on a un peu parlé des bouquins qu'on aimait bien, qu'on avait lus chacun en américain, et on s'est aperçu qu'on avait à peu près les mêmes backlists, des trucs très particuliers, parce que même si paraît beaucoup de choses traduites de l'américain. Il y a encore plein de choses. Des choses actuelles, puis des choses parues il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, comme par exemple Powers, qui était inédit en France. Donc petit à petit, l'idée comme ça de créer une collection a germé. Pour faire le tunnel, qu'on n'a pas fait d'ailleurs en premier, puisqu'on a commencé par Powers, c'est venu quelques années plus tard. Et on s'est dit, on va faire 4 titres par an, parce qu'on sentait qu'on allait faire des livres un peu particuliers, qui avaient vraiment besoin d'être défendus, d'être derrière. Et donc, on ne peut pas avoir... Évidemment, on pourrait éventuellement trouver 12 titres par an, mais c'est un peu dur de tous les mois, pour nous comme pour l'attaché de presse,
Et pour les libraires,
d'aller voir les journalistes et de leur dire, alors là, on a un livre complètement atypique, très original, un peu difficile. Voilà. On ne pouvait pas leur dire 12 fois par an, on a un livre atypique, sinon au bout d'un moment, il y a quand même un problème. Quoi. Donc voilà, on s'est limité à 4 titres par an, ce qui fait que sur 10 ans, on est à voilà, une quarantaine à peu près. On ne s'est pas trop posé la question d'une ligne directrice, hein, c'est juste des bouquins qu'on aime. On va dire que notre seul critère, c'est toujours le livre qui nous parle par un travail de structure ou d'écriture et jamais de thématique. Parce qu'il peut y avoir des collections qui sont un peu thématiques. Si on prend par exemple ou des éditions comme Goldmeister, il y a une thématique qui est en gros le nature writing, etc. Alors ça ne veut pas dire que c'est des livres qui ne parlent que de ça et qui n'ont pas d'autres intérêts. Au contraire, il y a des livres passionnants et super bien écrits chez Goldmeister. Mais disons qu'il y a un angle. Et aussi, chez d'autres éditeurs, souvent l'angle en fait, a suivi des modes. C'est pour ça qu'on a une représentation aussi de la littérature américaine qui est particulière. Pendant assez longtemps, peut-être l'image que les gens avaient de la littérature américaine, ça a été quand même via des auteurs comme Thomas McGuane ou Jim Harrison. Voilà, il fallait qu'il y ait des chevaux, qu'on pêche des truites, qu'on se fasse emmerder par des ours la nuit qui viennent gratter la tente, qu'on picole du whisky et qu'on bute 2-3 mecs dans le désert. Et puis après, ça a changé. Il y a eu d'autres modes. Hein. Il y a eu la mode Bracey Ton Ellis, Jamie McInerney. Alors au contraire, là, c'était vraiment plutôt une vision de la littérature américaine très urbaine. Et là, il fallait plutôt avoir 19 ans, des études moyennement intéressantes et sniffer de la coke autour d'une piscine ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est comme pour toutes les littératures, ça ne marche que par des stéréotypes, puisqu'on n'importe pas tout, on n'a pas la même culture et on fait des choix. Donc voilà. Donc nous, on n'est pas très. Même s'il y a un petit thème récurrent qui est quand même les explosions atomiques, mais on ne l'a pas fait exprès. Donc c'est vraiment plus axé sur des travaux d'écriture avec des choses très très différentes, parce que par exemple, il n'y a rien à voir entre un auteur qui est presque classique, hein, même. Je pense qu'il est très audacieux quelque part, qui est comme Richard Powers, ou des auteurs comme Mark Lehner, qui au contraire est dans une écriture complètement postmoderne, junk food et débridée. Donc après, la cohérence, elle se fait sur un rapport, je pense, plus au lecteur qui peut être intéressé par des formes littéraires qui sont un peu différentes du roman traditionnel.
Alors vous l'avez appelé Law 49. Ça, c'était aussi une sorte de petite profession de foi, ou alors c'était une sorte de petit signe comme ça.
Voilà, il y a un gros problème, c'est parce qu'en fait personne, enfin chacun pense, parce qu'on est deux donc avec Arnaud Marchard, chacun pense que c'est l'autre, enfin que c'est soi-même qui a trouvé le. Moi, j'étais persuadé d'avoir trouvé le 49 par rapport à un roman de Pynchon qui s'appelle Vente à la criée du Law 49. Et voilà, on avait cherché plein de titres de collection. C'est vraiment très difficile de trouver un titre de collection pour la littérature américaine, quoi, parce que vous essayez des choses qui sont un peu compliquées au début. Donc j'avais trouvé ça, Law 49, je trouvais ça bien. J'aimais bien l'idée d'un mot et un chiffre. Et puis Arnaud pense qu'en fait que c'est lui qui l'a trouvé. Et en plus, il argumente parce qu'il est de Saumur, donc c'est le département, c'est 49, donc il... Voilà. Donc en plus, on est très de mauvaise foi, donc en plus chacun trafique, fait souvent des faux mails, il renvoie, il lui dit bah, « tu vois, j'ai un mail qui prouve que c'est moi qui ai trouvé ça ». Enfin bon, en plus c'est super facile de trafiquer des mails, enfin, lui c'est une spécialité Arnaud, il me fait souvent des faux mails de Pynchon par exemple que je reçois, où il critique la collection, enfin voilà. Donc c'était quand même pour interpeller, pour que les gens demandent pourquoi Law 49, et puis comme ça on peut dire bah, à cause de Pynchon, est-ce que vous connaissez Pynchon, est-ce que vous, voilà, etc. Et en gros, c'est pas la descendance de Pynchon, parce que des gens comme William Gass sont un peu plus âgés que Pynchon, mais c'est cette mouvance-là de gens qui sont préoccupés par l'écriture, avec un peu deux axes. qui serait de découvrir des choses un peu qui ont été oubliées ou pas faites à l'époque, par exemple comme Richard Powers, que je crois qu'il a publié son premier livre en, je sais plus, 86 ou 89, enfin, quand on l'a publié en 2004, le livre n'avait jamais été, c'est un auteur inconnu, alors qu'il avait déjà 5-6 livres, et puis de découvrir aussi des auteurs plus jeunes en cours de construction, avec ce problème aussi de pas... qui est un peu dommage, mais on ne peut pas tout faire. Par exemple, Powers, il y a des auteurs, on essaie de les suivre éventuellement, comme Powers ou Brian Vinson, on en fait beaucoup, mais comprenez bien qu'avec 4 titres par an, on ne peut pas en fait suivre chaque auteur. Donc ce n'est pas le but, on va vous faire découvrir tout Brian Vinson ou tout Lydia Millet, ce n'est pas possible. Parce que sinon, à 4, au bout d'un moment, il serait toujours les 4 mêmes, et on ne pourrait plus en faire d'autres. Donc c'est aussi quelque chose qu'on doit expliquer aux auteurs. Mais bon, à la fois, les Américains sont ravis d'être traduits. Donc voilà, donc on essaye de faire avancer comme ça les pions de ces auteurs très différents et de chaque année avoir un peu un cocktail très différent, de ne pas avoir 4 livres qui se ressemblent trop, même si évidemment ils ne se ressemblent pas, mais qui n'ont pas les mêmes exigences.
Alors précisément, être éditeur, c'est aussi avant tout être un lecteur. C'est un lecteur qui choisit. Est-ce qu'on peut lire des livres comme ça? Se détacher de la lecture idéale telle qu'on pourrait l'imaginer, de cette lecture de quelqu'un qui l'imagine déjà comme un livre ou comme un livre traduit. Est-ce que c'est un travail différent ?
Alors, moi déjà, je dirais qu'en plus, moi, je ne peux pas me qualifier d'éditeur, parce que pour moi, quand même, un éditeur, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui a un salaire, qui doit quand même remplir certaines obligations, qui doit se confronter à des... Moi, j'ai quand même cette chance d'être juste directeur de collection. Avec la contrepartie qu'on me paye en... C'est des bonbons, ça s'appelle,
c'est
ça?
Oui, des bonbons. Bonbon bec.
Mais du coup, j'ai pas à me coltiner tout le côté qui peut être un peu pesant, financier, économique de la chose. Après, pour... la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment très simple. C'est, on trouve des livres par hasard. C'est vraiment une question de hasard ou en se les faisant conseiller par les auteurs qu'on publie. C'est-à-dire que je vais demander à Brian Evanson ou à Lydia Millet, qu'est-ce que tu as lu récemment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble absolument indispensable ou des choses comme ça?
Est-ce que c'est construit? Parce qu'en fait, l'O49, l'air de rien, a dessiné quelque chose. Mmh. Est-ce qu'il t'arrive de voir des livres en disant... Ah ça, j'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à le voir dans l'O49.
Oui, bien sûr.
Comme si, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se dessinait presque malgré vous.
Oui, oui. Mais alors, en plus, je ne saurais pas tellement le théoriser, hein, parce que en plus, la collection a évolué. C'est vrai qu'elle avait une image de marque un peu au début, malgré d'ailleurs Powers, et qu'elle a encore un petit peu. C'est l'adjectif qui revient tout le temps, c'est déjanté, par exemple. Voilà, c'est quelque chose d'un peu fou, d'un peu délirant, alors que je pense que si on faisait un classement, il n'y a pas plus de déjanté que d'autres dans 49. Après, on le sent... en fait, on a envie de se laisser surprendre. Donc, il y a des auteurs qu'on va vraiment suivre. Donc, on sait qu'un nouveau Powers, au bout d'un moment, il y a aussi des auteurs qu'on suit. Et puis, de temps en temps, on aimerait vraiment trouver quelque chose de nouveau qui nous étonne. Et je ne sais pas, c'est en lisant le livre, on se dit, ça, c'est du lot 49. Mais ce n'est pas au sens... ça ressemble à du lot 49, mais ça enrichirait le 49, ça le diversifierait, ça en ferait un petit peu autre chose. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pas de chercher des livres qui sont le 49, mais d'attendre des livres qui disent... Est-ce que je pourrais moi aussi être du lot 49 ? Est-ce que je fais des propositions de forme, de structure, d'écriture qui pourraient aller... C'est pour ça, par exemple, qu'on a fait aussi un espagnol à un moment. Oui, parce qu'on s'est dit, finalement, le point commun, entre guillemets, à tous ces livres, c'est un travail d'écriture, un besoin de se démarquer de règles traditionnelles. C'est pas forcément l'Amérique, donc ça nous a amusé aussi de faire un espagnol pour dire on pourrait aussi faire des français, pourquoi pas, ou des allemands, hein. On a parfois des idées, mais
oui, des français, oui. Est-ce que tu reçois des manuscrits, par exemple, aussi bête que ça puisse paraître?
Non, heureusement.
Non, d'accord. Il n'y a pas des gens qui disent « je suis un auteur lot 49 ».
Non, parce qu'ils ne pensent pas qu'on peut faire encore des français, donc il ne faut pas que ça se sache, à mon avis, parce que là, ça va être la catastrophe.
D'accord. Alors, une question qui est anodine, mais qui n'est pas totalement. Chez lot 49, on se rend compte que les livres épais ne sont pas rares. Est-ce que ça ne traduit pas aussi quelque chose? Souvent, c'est toi qui les traduis, d'ailleurs. Est-ce que ça ne traduit pas aussi un peu ton rapport avec cette création qui est la traduction, qui est que finalement... La brièveté ne t'intéresse pas tant que ça, quand il s'agit de traduire. Ou est-ce que je délire ?
Non, non, mais il y a plein de raisons. Bah, de toute façon, le fait est que c'est vrai que les Américains sont assez producteurs de gros livres. C'est comme ça. Bon, après, il faudrait voir dans d'autres pays. Peut-être que les Latino-Américains, c'est le même cas. Les Hongrois, c'est possible aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas, il faudrait faire des statistiques. Mais après, pour des raisons tout à fait personnelles, c'est vrai que ce qu'on appelle un gros livre... ça veut dire quelque chose quand même de très précis. Ça veut dire aussi un investissement de l'écrivain qui, voilà, il a passé tant... Enfin, je ne parle pas de Yann Moix, hein, mais il a passé quand même du temps dessus. Ça veut dire qu'il y a un projet... ça ne garantit pas du tout la qualité, hein, du livre, mais bon, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de... Il y a aussi ce rêve un peu chez les auteurs américains d'un livre monde, d'un livre système, d'un livre fresque, comme ça. Donc ça, c'est une chose. Donc... après, moi, personnellement, en tant que traducteur, c'est vrai que j'aime bien les gros livres pour une raison très fainéante, en fait. C'est que quand vous traduisez un gros livre, de 1000 pages ou 600 pages, whatever, vous avez vraiment le temps d'apprivoiser son écriture. Vous avez une telle richesse que, du coup, vous avez plein d'endroits sur lesquels vous appuyez. C'est-à-dire vous, sur 800 pages, ben voilà, vous comprenez comment il fait des phrases, s'il fait beaucoup de phrases courtes, très peu de phrases courtes, comment il utilise tel adjectif, ce qui revient, etc. Forcément, plus c'est riche, plus vous avez une base pour affiner votre connaissance de cette langue. Parce que ce que vous traduisez, ce n'est pas de l'américain, c'est la langue du livre. Donc, plus le système est riche, plus vous pouvez l'apprendre. C'est comme quand on apprend une langue. On ne peut pas apprendre une langue à partir de 5 cartes postales. En revanche, plus il y a du brouhaha, plus il y a des choses comme ça, plus ça marche. Donc voilà, moi j'aime bien parce que ça m'arrive de traduire aussi des livres courts, mais je trouve ça c'est très frustrant et donc très difficile. C'est-à-dire qu'en peut-être sur 2-3 mois, il faut entrer dans un livre, le traverser et en sortir et quand même arriver à le maîtriser parce que voilà, s'il fait 200 pages, on ne va pas vous donner non plus 2 ans pour le traduire.
Parce que tu sembles avoir, de la façon dont tu en parles régulièrement, avoir un rapport physique avec le travail de traducteur. Comme si c'était, on aurait envie de dire avant de te voir, mais c'est un athlète, Claro. On
va dire merci.
Mais qui a un rapport du style, c'est pas un combat, mais c'est quand même quelque chose qui se mène sur la durée, qui demande à posséder quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas ce rapport-là un peu physique avec le traducteur?
Oui, mais je pense que... Alors là, c'est le rapport physique, il est avec la traduction et avec l'écriture de toute façon. Et il n'est pas non plus lié forcément à des formes longues. Il est plus lié, l'aspect physique, au fait que... Voilà, il faut fouiller, il faut aller en profondeur, il faut se lancer dans la chose. Alors c'est vrai que quand on commence à traduire un livre qui fait 1200 pages ou plus, on se sent vraiment tout petit en bas d'une montagne, on se dit mais où, sur un transatlantique avec un voyage qui n'en finit plus. À la fois, on sait que voilà, on a tant de temps, donc le traducteur est un grand arithméticien qui calcule. Il sait qu'il doit faire tant de pages par jour et s'il prend du retard, il recalcule pour savoir comment rattraper son retard, comment tenir. Et il doit calculer le temps de traduction plus les temps de relecture et de retravail. Donc après, voilà, on sait qu'on va y passer 8, 9, 10, 12 mois, 13 mois. Donc ça, c'est physique, effectivement. Mais le vrai côté physique, c'est chaque fois un livre de dire, bon, je vais pas le traduire comme ça, parce que je ne sais pas comment le traduire. C'est le livre qui va m'expliquer comment il faut le traduire. Parce que je ne traduis pas de l'anglais, là je vais traduire du gaz, donc comment je vais traduire du gaz. Donc il faut vraiment que j'entre dans le livre et que j'écoute le livre et que je comprenne comment il est fait, parce que je vais devoir le réécrire. Et donc là, y a des fois, on va plus profondément, ou comme dans Gas, où vraiment il fallait aller très profond, où il faut aller très vite. Par exemple, comme dans Mark Liner, qui est une écriture comme ça, de particules complètement déchaînées, où en fait, on est obligé de traduire vite aussi, même si, bien sûr, on revient et on retravaille, mais parce qu'il faut garder ce mouvement-là. Et chaque fois, c'est s'adapter à trouver la vitesse du livre. Une vitesse qui peut varier aussi à l'intérieur du livre. Donc oui, c'est complètement physique, hein, ça. Alors, toi, mais ça ne vide pas, ça ne vide pas, ça m'enrichit. Non, au contraire.
Parce que toi, tu as une particularité qui doit être propre à peu de traducteurs, en fait, qui sont souvent des gens qui ne font que ça. Enfin, c'est rare, il y a quelques-uns. Brice Mathieu-Sens s'est mis à écrire, mais il n'y a pas longtemps. Il y a quelques traducteurs, mais qui sont des gens qui ne sont que dans la traduction. Or, toi, tu poursuis en même temps une activité de critique et d'écriture, on en a parlé. Mais ça n'exclut pas, l'un n'exclut pas l'autre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce rapport entre être en même temps en train d'écrire pour soi, en quelque sorte, et écrire l'autre, l'altérité. Est-ce que c'est un sentiment de justement, de, on crée une altérité en soi?
De toute façon, moi, au début, en plus, je ne voulais pas être traducteur. Hein. J'écrivais, je comptais faire ça, même si j'avais compris que ce n'était pas un moyen pour vivre plus de 10 minutes. Mais donc là, je suis tombé vraiment dans la traduction par hasard. Un jour, voilà, on m'a proposé de faire un essai. Et donc, j'ai compris quand même. C'est vrai que la traduction, ça me permettrait de gagner ma vie, ce que l'écriture ne peut pas faire, sauf à parler de muchacha. Et en revanche, j'ai mis très longtemps à pouvoir me rendre compte que finalement, j'avais le droit, quelque part, de dire que je vivais de ma plume. Et que voilà, que mes traductions, c'était quand même, j'avais quand même tapé chaque lettre sur le clavier plusieurs fois, et que c'était donc un travail d'écriture, parce que ce qui est intéressant dans la traduction, en plus à mon époque, il y avait au XXe siècle, il n'y avait pas de formation pour la traduction. Maintenant, il y en a.
C'est devenu un métier.
Pas sûr que ça change forcément grand chose, mais et donc ça permet de comprendre qu'en traduction, en fait, il n'y a pas un moment où vous arrivez à un niveau et vous pouvez tout traduire. C'est que vous êtes tout le temps en train d'apprendre. C'est un métier en perpétuelle formation. Voilà, il y a des livres, par exemple, je sais que je ne peux pas les traduire, je ne sais pas le faire. Donc, je suis obligé de constater que voilà, c'est un métier un peu étrange qui... Faut pas croire. Alors des fois, il y a des éditeurs qui vous disent mais ça, tu peux le faire. Non. Chaque livre est particulier et je suis pas arrivé à un niveau où on peut tout faire. Ça n'existe pas. Je peux pas traduire un livre qui parlerait de vraiment, on va dire, de par exemple de marine à voile, parce que je fais pas de marine à voile et que donc il y a quand même des domaines où il faut aussi connaître le réel qui est derrière. Donc pour ça, je me réfugie souvent dans des traductions de livres qui sont pas des purs objets de langage, mais enfin qui n'ont pas besoin. Moi, je suis quasiment jamais allé aux États-Unis. Je connais très mal New York ou d'autres villes. Je connais très peu les institutions américaines. J'ai d'ailleurs aucune passion pour l'Amérique. Enfin, mon sujet d'étude et de passion n'est pas du tout le monde américain. Pourquoi je disais ça déjà ?
C'est pour. C'est par rapport à la création. En quoi t'intéresser à la traduction D'accord. peut nourrir le tien ou ne pas l'exclure, c'est ça qui est...
Donc voilà, donc c'est le rapport que j'ai est un rapport d'écriture à la traduction.
C'est pas une autre activité que celle d'écrire. Sauf que tu peux en même temps produire un texte qui serait un texte de toi. Et comment on fait pour ne pas être contaminé ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est cette espèce de question de se dire, est-ce qu'on peut ne pas être contaminé par ce qu'on fait ?
J'ai réfléchi à la question parce que comme on me la posait souvent et que je n'avais pas de réponse, je me suis dit que ce serait peut-être bien que j'y réfléchisse pour pouvoir répondre quelque chose. Et en fait, je pense que c'est le nœud de la chose, c'est ce qu'on va appeler par exemple l'influence. Et l'influence, je pense que c'est quelque chose que en tant qu'écrivain, on est obligé d'apprendre à gérer. Je dis gérer, j'aime pas ce verbe qui en général remplace le verbe vivre. Enfin bon, je m'explique. Par exemple, vous lisez, vous êtes écrivain et puis vous lisez du Proust ou vous lisez du Bataille, du Queneau, etc. Vous aimez et donc vous devez à la fois vivre cette passion, cet enthousiasme pour certaines œuvres et à la fois établir une forme de distance pour pas qu'elle vous influence au sens où vous iriez vers un mimétisme. À la fois c'est difficile et facile. Donc c'est facile parce qu'effectivement vous lisez Proust, le mimétisme, faut se lever de bonne heure quand même pour arriver à faire ça. À la fois vous pouvez faire du sous Proust ou du sous Céline, etc. Donc en fait je pense que l'écrivain, c'est rare les écrivains qui lisent pas d'autres écrivains, apprend très vite justement à vivre, gérer cette question de l'influence. Il n'y a pas à se laisser bouffer par ça, il n'y a pas à faire du sous machin, du sous truc. Donc en traduction c'est pareil. Quand je traduis, je suis à fond dans la phrase de Volman, dans la phrase de Pynchon ou de Gass, mais j'essaye d'avoir ça se fait inconsciemment, d'avoir la même réactivité, qui se produise la même opération chimique, c'est-à-dire en quoi ça m'enrichit, qu'est-ce que ça m'apporte au niveau de la syntaxe, de l'imagination, de ce qu'on peut faire avec une phrase, longueur de phrase, vitesse de phrase, et à la fois de ne pas faire du Volman quand je vais fermer mon fichier, rouvrir le mien, ce qui peut arriver évidemment dans la même journée. tout en laissant passer quelque chose. Parce que, si on les lit, il faut aussi que ça serve. Pour moi, les livres, c'est des boîtes à outils. Si j'apprends rien dans Volman et que je m'en resserre pas dans un de mes livres, je trouve ça un peu dommage. Alors après, il y a des choses dont on se sert, c'est rien. C'est juste que, au bout d'un moment, ça débloque. Et le traducteur, de même, enrichit sa pratique de la traduction en lisant beaucoup de textes en français, hein, pour faire travailler son français. Et de même, ça l'enrichit lui-même pour... alors c'est pas que c'est de la gymnastique quand vous traduisez, mais mine de rien, voilà, ça peut dérouiller des choses qui peuvent vous aider après dans l'écriture. Mais évidemment, on ne théorise pas tout ça ce faisant.
Mais le temps passant, on n'est peut-être pas le même écrivain qu'il y a 30 ans, et tu ne traduis pas la même chose, et ta pratique de la traduction suit ta pratique de l'écriture, et elles évoluent en même temps simultanément et différemment.
Oui, je pense que l'intérêt quand même de faire des livres, c'est de non seulement de changer, c'est-à-dire à la fois approfondir un sillon, peut-être se créer un style, et à la fois empêcher que ce style se sclérose et devienne stéréotypé, ou ce que je dis souvent, après vous avez l'impression de vous pasticher vous-même. Hein. Alors soit on est l'auteur d'un seul livre comme par exemple Proust, effectivement on ne va pas dire que Proust s'imite dans le tome 5 et qu'il ne s'est pas se renouveler, c'est pas comme ça que ça se passe, mais à la fois quand on fait des livres il faut qu'on fasse attention à ce que ça bouge
et, oui, parce que tes propres romans, moi que je connais bien, donnent le sentiment que tu refuses aussi d'être dans un sillon, c'est-à-dire qu'entre le premier que j'ai regardé et relu il n'y a pas très longtemps et les autres, on a le sentiment qu'il y a aussi chez toi une volonté de ne pas être prisonnier ni d'une forme, ni d'un sillon, ni d'un regard. Est-ce que c'est aussi une volonté aussi ?
Ah oui, c'est une volonté, mais parce que dans l'écriture, tout est quand même. Il y a une grosse part de contrôle, il y a aussi une grosse part de laisser aller. Hein. Il faut quand même ouvrir un peu les flux du langage comme ça, mais il faut quand même contrôler. Et il n'y a rien de plus horrible que d'écrire une page et de savoir presque même avant de la commencer qu'on sait la faire. Et comme, moi, des fois, je dis, là, tu es en train de faire du claro. Enfin, je me rends vraiment compte de ça.
Tu arrives à dire faire du claro. Tu sens quand même.
Oui, parce que je sais que
tu connais tes penchants.
Forcément, on se crée un style. Donc, et le style, il est statique. Donc, pour que le style soit dynamique, il faut quand même lui foutre des sacrés coups de pied dedans. Parce que sinon, on fait la même chose. Alors que, il ne faut pas que le contrôle empêche d'entendre tous les possibles de ce qu'on est en train d'écrire. On peut vraiment aller ailleurs. Donc c'est une lutte en permanence qui est un des aspects de l'écriture, hein, qui est assez important, et il faut toujours en avoir conscience, sinon c'est pas qu'on n'évolue pas, parce qu'il n'y a pas de darwinisme en littérature, mais en tout cas on tourne comme ça à l'intérieur. Et en traduction, je pense que ça peut se faire aussi. Tous les traducteurs s'aperçoivent qu'au bout d'un moment, ils ont des réflexes, des tics, des choses comme ça, et ils vont dire, plus souvent toutefois que quoique, ou voilà, ils vont éviter les subjonctifs, ou ils vont avoir une façon de faire les choses. Ils vont avoir un lexique, on a beau lire, essayer de s'enrichir, au bout d'un moment, on sait qu'on tourne sur un lexique un peu comme un ordinateur qui tac-tac, qui trouve les choses. C'est pour ça aussi qu'il y a certains auteurs, j'ai aimé ne plus les traduire. Parce que je me disais que c'était bien pour eux que ça soit traduit par une femme ou un homme, par quelqu'un de plus jeune ou de plus vieux, par quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, ça renouvelle. C'est vrai qu'il y a une cohérence peut-être dans des traductions quand c'est par la même personne, mais à la fois, il faut savoir lâcher. Parce que peut-être le point commun, ce qui est plus intéressant à chaque fois, c'est que ce sont des travaux, des processus qui n'ont rien à voir avec l'identité, qui sont pour moi très agréables parce qu'ils sont justement dans un devenir impersonnel. Moi, j'écris pas pour me trouver, pour chercher ma vérité, pour me comprendre, etc. J'aime bien le fait que dans un bain de langage et d'essayer de contrôler un petit peu les flux, mais d'en entendre, etc. Mais pas pour me trouver. Et dans la traduction, c'est évident qu'il faut complètement s'abandonner et qu'il faut devenir le reproducteur, le recréateur du texte. Donc on apprend aussi à ne pas se prendre comme référence soi-même. Donc c'est pour ça que en traduction aussi, il y a ce travail d'être très à l'écoute du texte et pour pas le rabattre sur des tics d'écriture qu'on a. Hein. Mais l'écriture est aussi beaucoup de tics. Hein.
Mais tu assumes parfaitement ton côté, tu l'as dit, recréateur, c'est-à-dire de dire de la création sans en même temps être un ayatollah de la traduction, qui ont l'air d'ériger des grands principes, etc. Par exemple, ton rapport à la fidélité, pour toi, c'est une tarte à la crème. Enfin, c'est un truc un peu absurde. Tu dis même une expression, tu dis le traducteur prend le train en marche par rapport à la mobilité. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu entends par là? C'est-à-dire que, comme si finalement il y avait du mouvement et que le traducteur est quelqu'un qui saisissait un mouvement mais qui ne pouvait pas bloquer quelque chose, comme un texte, comme si le texte lui-même, enfin, Cyrouel le dit aussi, comme si un texte continuait à produire quelque chose même au-delà de sa
sortie. Oui, moi c'est l'impression que j'ai de plus en plus, enfin pas pour tous les textes, hein, mais qui sont vraiment écrits à partir d'une nécessité de l'écrivain. Parce que c'est moi, quand je traduis, je me dis pas bon, est-ce qu'il faut être fidèle, est-ce que je fais justice. C'est comme si à la limite j'avais pas le temps de me poser ces questions. J'essaie juste de savoir qu'est-ce que le texte veut devenir. Donc je vais essayer de voir jusqu'où le texte est allé, qu'est-ce qu'il a tenté. Alors évidemment, l'écrivain américain ou hongrois d'ailleurs, peu importe, quand il écrit son livre, il se dit pas est-ce que je suis pas en train de faire un objet qui est tellement singulier, plus je vais aller vers le singulier ou le complexe, plus je vais le rendre intraduisible. Alors qu'en fait, justement, c'est le paradoxe, c'est que parce qu'il est de plus en plus unique en tous ses points et dans sa circonférence, le livre est justement traduisible, c'est-à-dire qu'il génère en lui un besoin d'être traduit. Alors c'est pas une mystique, hein, c'est pas le livre qui comme ça, il y a un côté médiumnique et puis il veut passer de l'autre côté. C'est que il y a tellement d'enjeux de langue, etc., que il y a quelque chose dans la langue qui dit est-ce que ça peut recommencer. On sait que l'aventure littéraire, elle recommence avec le lecteur déjà à la base. Le livre est déformé. Personne ne sait ce que c'est que la lecture. C'est une masse de mécompréhension, d'oubli, on ne sait pas lire, on apprend à lire en lisant. Et ben, la traduction, ça, c'est comme une voie comme ça de côté que prendrait le livre qui dit ben, est-ce que je peux recommencer ? Alors, c'est quand même un paradoxe puisque on va tout effacer, on ne gardera aucun mot originel, hein, même parfois les noms propres peuvent être appelés à changer. Donc c'est un acte, on a l'impression c'est bizarre, il y a de l'amour, mais c'est comme un acte de mort où on tue le texte, etc. Pour moi, c'est au contraire le texte qui, non pas dit, il y a une espèce d'invariant de la langue et de toute façon, je peux recommencer comme ça, voilà. Le texte ne dit pas non plus, seul le contenu existe, voilà. Le texte dit, ma forme, elle vient d'un travail des formes, et donc elle est productrice. Et elle a encore envie de produire. Elle a envie de passer, de voir comment il se transforme. Donc la traduction n'est pas l'équivalent, n'est pas la version, c'est une autre aventure. Où il y a des déperditions, mais il y a aussi des gains, il y a des choses qui se passent. Plus le texte est singulier, plus il y a des chances qu'il fasse autre chose. De toute façon, le fait même qu'il passe la langue, et même s'il ne passait pas la langue, il y a une déperdition. Moi, si je lis un roman japonais traduit, ou même si j'arrivais à le lire en japonais, c'est voilà, je suis pas japonais, donc de toute façon, son origine du monde à lui n'est pas la même que moi, et donc mon travail de lecteur aura déjà tout traduit ou pas réussi à traduire, voilà. Et après, on pourrait prendre des détails concrets, mais c'est le livre qui a envie de recommencer et d'essayer autre chose pour voir. Pour voir s'il peut, c'est comme un cheval de Troie, il va arriver dans la littérature française et puis il va se déguiser en littérature française, hein, puisqu'il est, il est écrit après du coup en français et les gens qui le lisent vont pas se demander, le prennent pas avec des pincettes en disant « Ouh là là, attention, c'est une traduction, donc c'est peut-être infidèle ou quoi que ce soit ». Donc c'est un virus qu'on inocule et qui peut changer aussi bien les écrivains que les lecteurs dans leur pratique.
D'accord. Mais tu dis même des choses assez dures, mais enfin, sous couvert de plaisanterie, en disant que le traducteur doit prendre le visage gracieux de l'escroc, du faussaire. Enfin, on peut dire des choses aussi dures. Enfin, avant, on disait le traducteur, c'est un traître. Ouais. C'était l'origine, l'étymologie. Ouais. Mais qu'il y a un côté aussi un peu escroc. Et que finalement, plus l'escroc est de qualité, plus la traduction sera bonne.
Mais oui, parce qu'il y a... il y a deux sortes de faussaires. Par exemple, il y a le faussaire qui veut vous faire une Joconde. Une Joconde et... Personne ne voit la différence. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est la vraie qui est au Louvre. Donc ça, c'est cool. Et puis, il y a le faussaire qui va faire un Léonard de Vinci qui n'existe pas, mais qui a intégré le système Léonard de Vinci et qui le fait. Et le traducteur, il est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, au moment où on croit qu'il est en train de nous faire une Joconde, en fait, lui, il est obligé d'avoir fait tout le boulot l'autre boulot, et de faire un faux, où tout est imité, etc., sans faire croire non plus que c'est l'original, parce que voilà, on voit bien que ça se passe ailleurs, mais ça, c'est parce qu'on a des réflexes stupides et qu'on pense que, par exemple, un bouquin américain se passe aux États-Unis, qu'un bouquin français se passe en France, mais on peut imaginer aussi un roman japonais qui se passerait en Islande. Enfin bref, donc on joue sur ces catégories-là. Ce que je veux dire, voilà, c'est il y a un côté, c'est faire un faux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une puissance mimétique chez le traducteur, mais qu'elle soit quand même créatrice, organique, etc., pour faire passer quand même de sacrées couleuvres, c'est-à-dire des jeux de mots, des choses comme ça, où là, on va pas s'arrêter pour mettre une note en bas de page. On fait disparaître des choses, parce que des fois, traduire, c'est ne pas traduire. Hein. Il y a des fois, traduire, c'est surtraduire. Il n'y a pas de méthode. C'est chaque livre qui dit comment tu vas faire passer ça, et est-ce que tu peux quand même essayer de le faire passer, mais sans que ça soit lourdingue, sans mettre des notes, sans trop développer. Et la seule chose à garder, c'est... Enfin, pas la seule chose, mais le plus important, c'est la poétique. C'est-à-dire que le livre, s'il n'existe pas par une poétique, on ne peut pas le transvaser ailleurs.
Alors, quels sont... Toi, tu as des... Enfin, je pense que tu n'hésites pas à monter au front. Enfin, moi, je lis le Clavier Cannibale tous les jours. Tu t'impliques, tu donnes ton avis. Tu n'hésites pas à dire qu'un tel est un mauvais écrivain. Enfin, pas... Tu cherches même ce que c'est qu'un bon ou un mauvais livre. Je ne pense pas que tu dises ça, mais est-ce que tu as repéré, toi, est-ce que tu sais quels sont les ennemis de l'écrivain ? Pas les ennemis personnels, je parle pas de gens, mais qu'est-ce que, quand tu pratiques ton écriture, ta traduction ou ta propre écriture, qu'est-ce que tu distingues comme ennemi ? Quels sont les ennemis principaux ? Quelle est ta crainte principale ?
Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
C'est-à-dire, le cliché, par exemple. Est-ce qu'on a le sentiment, livre après livre, que je disais tout à l'heure que tu ne veux pas refaire le même livre, mais que tu t'es fixé des choses que tu ne veux, dans lesquelles tu ne veux pas tomber, et c'est-à-dire éviter le cliché, essayer de ne pas faire du style, par exemple.
En écriture ou en traduction ?
En écriture, mais donc en traduction aussi. C'est-à-dire que... Là, je suis plutôt sur le côté de l'écriture, mais que... Comme si c'était des pièges, et qu'il fallait déjouer ces pièges-là. Est-ce que Parfois, j'ai un peu ce sentiment-là.
Alors, je ne sais pas si... Peut-être le mot « ennemi » est un peu fort, mais en tout cas, les pièges ou les... Là, je pense que quand on écrit, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. On a l'impression que, voilà, on se met à écrire, donc on fait un travail qui va partir d'une préparation, quand même. On essaye un petit peu d'avoir un plan, éventuellement...
Oui, parce que toi, tes livres sont très organisés, par exemple. Enfin, ils donnent ce sentiment-là, quand même.
Ils essayent, mais c'est pas ce qui garantit l'arrivée ou la réussite. Mais donc voilà, on a déjà un boulot de création, d'organisation, de choses comme ça. Mais en revanche, il faut jamais oublier qu'effectivement, il y a des pièges en permanence. Donc il y a des pièges de se pasticher soi-même, ce que je disais tout à l'heure. C'est difficile d'énumérer les pièges parce qu'on s'en aperçoit quand
au fur et à mesure,
surtout quand on est tombé dedans. Je pense que le piège le pire piège à éviter quand on écrit, c'est dire. C'est-à-dire que écrire, enfin pour moi, c'est-à-dire c'est écrire et c'est pas dire. Ça paraît débilissime, mais j'explique. Je peux avoir une idée préconçue à l'avance de ce que je veux faire. Par exemple, je voudrais faire un chapitre ou une scène ou un paragraphe où le type va traverser le salon pour aller dans la salle de bain. À ce moment-là, déjà, la chose est faite. Le problème, ça serait de se dire donc je vais l'écrire. Donc je vais essayer de décrire en faisant un peu de mariole, quand même, si c'est possible, ou pas, machin, voilà, qui traverse ce truc et il va le faire. En fait, là, si je tombe là-dedans, je ne suis plus en train d'écrire, je suis en train de dire. Je veux dire quelque chose qui préexiste avant. Alors, au lieu de me mettre en état d'écriture et de voir si, est-ce que dans l'écriture, ce type a vraiment envie de traverser le salon ? Est-ce que c'est vraiment important par rapport au livre ? On est à page 200, on est à la page 5, etc. Et souvent, on s'aperçoit, et c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, que l'écriture, elle est détour. C'est-à-dire que des fois, je me fixe effectivement des petits projets, un micro-narratif comme ça, de choses qui doivent quand même se passer. Et donc j'essaie de remonter un petit peu avant comment on va faire pour préparer la chose. Et quand on prépare la chose, en fait, on découvre d'autres choses beaucoup plus intéressantes qui viennent d'un bouillonnement du langage. Et souvent, le type ne traversera jamais la pièce par la salle de bain parce que tout le monde s'en contrefiche. Enfin, personne n'attend ce moment-là. Il n'y a pas un pacte qui a été passé avec. Je vous ai promis, il va le faire. Parce que l'écriture, je crois que c'est Deleuze qui disait ça. L'écriture, c'est un détour. Et donc, on ne dit pas les choses, parce que sinon, c'est... Chaque fois, j'ai cette vision d'un écrivain qui ferait un plan de son livre, et puis son plan serait de plus en plus précis. Donc, non seulement il y aurait une structure générale, mais il y en a sûrement peut-être qui le font, on ferait un plan pour chaque chapitre, et puis on pourrait être encore plus précis, faire un plan pour chaque paragraphe. Et en fait, plus on avance dedans, en fait, c'est comme si le plan devenait le livre. Il est écrit. Donc, si vous détaillez tout, vous dites, dans la première ligne, je voudrais dire qu'il traverse le salon, il fait ça, ça y est, c'est fait. Donc là, on a quelque chose de compliqué si on travaille comme ça, parce que ça veut dire qu'en fait, on cherche à dire les choses et non pas à les faire arriver. Il faut un peu contrôler son roman, mais il faut aussi qu'il se passe des choses. C'est le livre qui fait des contre-propositions au bout d'un moment à l'écrivain qui lui dit, excuse-moi, ton plan est très joli, mais là, ça ne va pas être possible. Donc ça, pour moi, c'est le piège principal, c'est d'éviter de dire. Parce que si on fait ça, au bout d'un moment, y a un truc concomitant, c'est aussi le sujet. C'est le sujet qui prend le pouvoir. Et donc c'est lui qui va créer les émotions. Donc vous prenez une histoire triste ou un moment triste, un incident, un accident... Vous le racontez et vous dites ça va être triste, donc ça va créer de la tristesse chez le lecteur. Effectivement, si vous racontez la mort d'une grand-mère, ça va être triste, ça c'est sûr, personne ne va se marrer. Si vous voulez que les gens se marrent sur la mort d'une grand-mère, il va falloir faire un peu plus de boulot. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je peux me dire oui, j'ai fait un effet littéraire, j'ai créé de la tristesse ou de la joie, encore que c'est plus dur. Et du rire, c'est encore plus dur peut-être. Mais c'est pas vous qui avez fait ça, finalement. Globalement, c'est le sujet qui a pris le pouvoir et qui dit j'ai un sujet triste, donc je rends les gens tristes. Raconter la mort d'un enfant, personne rigole et c'est voilà. Maintenant, je pense que l'écrivain doit faire très très gaffe. Bien sûr, il a le droit de traiter des sujets, des thèmes, des situations, des choses, mais il faut que c'est à lui. Enfin, moi, ce que je pense qui est important, c'est que faut que ça soit la phrase qui crée l'émotion. Par exemple, ce que j'aime beaucoup chez Pynchon, c'est que il arrive à créer des émotions complètement inédites sur des situations complètement inédites, et non pas parce que une grand-mère meurt ou un chat se fait écraser. Et une émotion, c'est une vraie émotion littéraire, une émotion qui vient de la phrase, qui vient tout d'un coup d'un adverbe qui est là, ou comme chez Flaubert, tout d'un coup, vous avez un imparfait qui est en train d'arriver au galop, qui se fait pousser par un passé simple au dernier moment. Ça, c'est de la vraie émotion. Ça n'empêche pas d'avoir un lien aussi direct avec ce qui est dit, bien sûr, ce qui est écrit, avec des situations. Mais je pense que, par exemple, faire pleurer, c'est un exemple que je donne souvent, je me suis jamais lancé dedans, mais faire pleurer un lecteur en racontant la mort d'une éponge, je pense que ça serait un gros challenge. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça me paraît plus compliqué, plus intéressant que de le faire pleurer quelque chose de triste. Donc dans les pièges, il y en a comme ça un paquet. Il y a le piège de ne pas savoir construire son livre, le piège de ne pas savoir écouter le livre quand il est en train de...
Est-ce que, par exemple, quand tu traduis, tu as le sentiment que ta traduction, tu la mets en situation de vieillir, par exemple? Tu citais Volman qui t'avait posé une drôle de phrase. Ouais. Ça me paraît très étonnant qu'il t'avait dit ça, il t'avait demandé.
Ouais, Volman m'a demandé, mais tes traductions, tu les fais pour combien de temps? J'étais un peu désarçonné par la question. Mais on sait très bien que les traductions vieillissent. Bon, les gens vieillissent, les livres aussi vieillissent, donc il ne faudrait pas non plus s'affoler complètement. Après, la pratique montre que... plus les livres sont ancrés dans une matière vernaculaire, orale, argotique, plus ils vieillissent, évidemment. Je pense qu'un jeune de 15 ans en 2014 qui lit un série noire des années 50, il ne comprend mais rien du tout. C'est un argot qui a complètement disparu si on n'a pas pratiqué par la lecture. Ça n'a pas de sens. Donc la traduction peut vieillir beaucoup par ses côtés. Après, à la fois, la traduction, elle est égale à quelque chose d'extraordinairement jeune par obligation, puisque si vous prenez, on prend Don Quichotte, si vous le traduisez à l'époque de Don Quichotte, vous le traduisez dans un style de l'époque. Mais quand vous traduisez Don Quichotte aujourd'hui, vous n'avez pas une obligation de faire un faux et de le traduire à l'ancienne avec qu'un vocabulaire de l'époque, etc. Évidemment, vous n'allez pas utiliser le mot iPhone dans Cervantes, c'est sûr, mais bon, vous le traduisez de façon moderne par inéluctabilité quelque part. Vous pouvez pas vieillir la langue parce que c'est Don Quichotte, il veut recommencer, mais il veut recommencer au 17e, au 18e, au 19e, au 20e, au 21e. On peut le retraduire autant de fois. Il n'a pas demandé à garder la vieille traduction de, je ne sais plus comment il s'appelle, Audin, qui était à peu près à l'époque. Donc mais, ça, c'est intéressant de voir ce que le livre
mais
fait.
Mais curieusement, on t'a demandé, alors je pense qu'on t'a demandé deux fois, GF fait ça maintenant, ça c'est étonnant, non pas des préfaces, ils font des présentations, etc., mais ils demandent à quelqu'un d'extérieur à l'édition, en quelque sorte, du livre, de parler de son plaisir d'un livre, de son importance d'un livre. C'est fait avec plutôt de la légèreté. Alors, toi, on t'a demandé de parler du chef-d'œuvre absolu qui est Tristram Shandy, le livre sur lequel un traducteur a récemment failli devenir fou. Mais en même temps, on te propose la traduction de Charles Moron, qui est une vieille traduction et dont tout le monde dit qu'elle a un peu vieilli. Quel rapport tu as ? Non, mais, paraît aussi inclusif de dire, mais après tout.
Moi, j'aime bien la traduction de Charles Moron et j'aime bien la traduction de Guy Jouvet. Je trouve qu'elles sont très différentes, celle de Moron et. Elle est très élégante, il a des trouvailles.
Qu'on aurait plus, justement.
Je suis tombé sur une phrase l'autre fois qui est plus belle en français, enfin, à mon sens, qu'en anglais, où il dit. Je crois que c'est dit le. La digression et le soleil du roman, etc. En anglais, c'est un peu plus. Pas laborieux, mais bon, différent. Enfin, il y a des très belles choses dedans. Alors, évidemment, il n'a pas gardé ces fameux tirets qui font bander Guy Jouvet et qu'il faut garder et qui sont effectivement qui sont très intéressants à l'époque et encore maintenant.
Curieusement, on revient à un état ancien du texte que dont Moron s'était débarrassé en disant on peut s'en passer.
En plus, bon, ils ont revu un peu la traduction de Moron, ils ont arrangé les choses. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que je me dis jamais, j'ai à les comparer. Je peux les comparer, c'est intéressant. Mais c'est du boulot de
comparer. C'est terrible de faire sur ton blog, c'est assez passionnant quand tu prends le même vers.
On le fait sur une ligne et déjà on peut faire un bouquin. Mais qui pourrait comparer, sauf si vraiment là, c'est des traductions pourries, mais qui pourrait comparer deux bonnes traductions et dire que l'une est meilleure que l'autre? C'est impossible. Parce qu'il faudrait le faire à la fois phrase après phrase, mais c'est pas pour ça qu'on comparerait vraiment les traductions. Il y a aussi dans l'effet de lecture, dans la vitesse, etc. Donc ce serait une entreprise qui serait vaine. Vous avez par exemple deux traductions de Au-dessous du volcan qui n'ont rien à voir et qui en plus n'ont rien à voir avec l'original. C'est comme si on avait confié un livre écrit par un fou à deux autres fous. Donc il y en a un, il a collé le texte comme si c'était une version latine, donc le texte de Laurie paraît complètement étrange. En plus, l'histoire de cette traduction est très bizarre, elle est à plusieurs voix.
Tu parles de la deuxième,
c'est de celle, donc, non, la première, la qui, première. Est chez, qui est chez Gallimard, qui est fait par un... J'ai fait des recherches, c'était très étonnant. Et donc, il y a des phrases qui sont très bizarres en français, qui ont peut-être fait la gloire de Laurie en France, mais qui, dans le texte anglais, elles ne sont pas du tout bizarres. Et Darras, en revanche, pour moi, il a tendance à déplier, à expliciter, etc. Et donc, il perd énormément, je trouve, la poétique, comme aurait dit Méchonique, du texte. Maintenant, on accède là, il faut faire avec. Ça n'a pas empêché Laurie d'avoir des aficionados, loin de là. Donc ça veut dire que le texte il s'est transformé, peut-être de façon patraque, sûrement pas de façon fidèle, mais du coup, on finit par se demander ce que ça voudrait dire. Et c'est intéressant, il y a deux traductions. Mais moi, la question à chaque fois qu'on me pose, et est-ce qu'il vaut mieux lire celle-ci ou celle-là ?
C'est une question qu'on nous pose tout le temps, puis avec un air très sérieux, on dit
voilà, ou sur Moby Dick, ou sur ce qui revient surtout pour les classiques, Dostoïevski. Je sais pas de. Il y en a, on sait qu'elles sont pas très bonnes, mais je sais pas, l'autre fois, je voulais lire Don Quichotte, parce que j'ai jamais lu Don Quichotte, et j'ai pas honte de le lire, parce que c'est un peu trop dur quand même à porter des fois ces choses comme ça. Oui, bien sûr.
Mais ça fait du bien de le dire.
Et je sais pas trop quelle traduction lire. Je connais pas du tout l'espagnol, donc j'ai pas les bases pour ça. Donc je me dis je vais le commencer dans la traduction qui est dans mon étagère, et puis peut-être que je peux l'arrêter après et lire le deuxième chapitre dans une autre traduction. Je sais pas combien il en existe, mais un paquet. De toute façon, pour moi, le livre, il a pris un risque. Du moment où il s'est fait, il a pris le risque de ne pas être lu, d'être mal lu, donc d'être mal traduit, ou d'être bien traduit, mais mal lu. Après, c'est une question de lecture. Comme on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est un peu compliqué.
Alors, on parlait des pièges tout à l'heure, mais j'ai le sentiment, et un piège, tu le dis presque volontiers, qui est une chose que tu crains vraiment, c'est le côté un peu pompeux. C'est-à-dire parce que tu as tendance à être un des rares écrivains. Non, à réfléchir ton travail. Peut-être que la traduction
t'y arrive. Non, je pense que tout le monde y réfléchit. Hein,
oui, mais tout le monde réfléchit, mais ne l'écrit pas nécessairement. Enfin, non, on croise beaucoup d'auteurs, il y en a qui ne réfléchissent pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, en tout cas, pas leur pratique. Mais est-ce qu'il y a cette crainte, tu pratiques une sorte d'humour un peu distancié, est-ce qu'il y a aussi cette crainte de te dire d'être rattrapé par la théorie, par le monde de la théorie? Est-ce que c'est une de tes craintes de dire finalement. À trop réfléchir la littérature, on arrive à ne plus la pratiquer.
Non, je pense pas, parce qu'en plus, j'essaye pas vraiment de théoriser, et surtout quand j'écris là-dessus, j'essaye de rester dans une posture ou une imposture, je sais pas, d'écrivain. De pas me dire, c'est pas parce que là je suis en train de réfléchir ou je suis en train de critiquer un livre ou de réfléchir sur un sujet. Qu'il faut que je baisse mes exigences d'écriture, il faut que je les adapte, elles doivent être différentes, mais il faut que j'essaye de faire en sorte qu'il se passe quand même quelque chose dans l'écriture, que c'est pas une marge non plus. Et après, ben voilà, c'est vrai que c'est important de se rendre compte de ces défauts, mais des fois, on voit des défauts, on est les seuls à les voir, mais bon, c'est important parce que, enfin, moi, voilà, souvent j'ai l'impression que ce que j'écris est pompeux ou complaisant, mais ça, c'est un rapport qui est vraiment de l'écrivain à lui-même, quoi, tous les gens qui écrivent sont pas dans l'amour absolu de ce qu'ils écrivent, ils peuvent être dans la détestation. Oui. En général, quand le livre est fini, au bout de quelques mois, on peut même plus l'ouvrir, on trouve ça complètement débile, arriéré ou quoi que ce soit, puis des fois 10 ans après on trouve ça bien, c'est très variable, et parce qu'on change tellement que de toute façon on n'est plus l'auteur de ce livre, donc on n'a pas à se mettre en position narcissique par rapport à ça, quoi. Il faut mieux essayer de voir ce qui va pas pour pas le reproduire, mais bon.
Parce que tu donnes rarement l'impression d'être totalement retiré, c'est-à-dire au contraire d'être en contact. Les livres que tu lis, dans le sentiment que tu as dû les acheter en librairie, enfin qu'il y a.
Oui, je fais ça.
Non, mais alors que les gens doivent t'envoyer des services de presse en espérant que tu vas faire un article, choses comme ça.
Pas tant que ça.
Qu'il y a un souci chez toi de l'aventure collective, enfin du fait que tu en parles déjà dans tes traductions, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de collectif dans ton travail de traducteur, c'est que tu n'es pas seul, tu te collectes avec à la fois un auteur au-dessus et un lecteur en dessous, et puis aussi dans ton travail d'écrivain, c'est-à-dire d'échapper à cette solitude-là qui peut être un peu mortifère. Alors, je pense à Un culte, par exemple, qui est un truc qu'un truc qui soit un peu...
Non, mais en plus, le coup de la solitude, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que quand on écrit, moi, j'ai pas l'impression d'être seul quand j'écris, j'ai l'impression qu'au contraire, on est une foule, quoi, de tous les possibles qu'on est. Déjà, je suis quelqu'un d'autre quand j'écris, voilà... De toute façon, dans la vie en général, on est toujours 30 personnes à peu près. Enfin, c'est mieux de s'en rendre compte. Mais non, le collectif, c'est plutôt la communauté. C'est-à-dire tomber sur des livres et se dire « Ah, j'ai l'impression qu'on est dans le même fluide, dans les mêmes problématiques et surtout dans la même nécessité. Je sens que ce qu'a écrit ce type, pas après de savoir si le livre est réussi ou pas, ça c'est d'autres questions, mais voilà, il a vraiment fait quelque chose. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, il y a une réelle aventure, il y a des risques. Et donc là, ça me parle et je me dis, ben voilà. Alors après, je peux me dire, oui, effectivement, on n'est pas seul, mais enfin bon, après, quand on est 600 à la rentrée, de toute façon, on ne se sent pas très seul. Hein, donc, on préférait peut-être être plus seul, mais...
Eh bien, je remercie beaucoup Claro. Alors, pour sa venue, ça nous fait très plaisir. On est fidèles et on le sera encore longtemps. À l'O 49, donc jusqu'au centième, et à son prochain roman. Donc, vous remarquez que je ne lui ai pas parlé. Hein, voilà.
Mais oui, c'est ça.
non, total respect. Voilà. Merci beaucoup.
Ah ben, dans le prochain roman, je peux dire quand même.
J'ai pas osé.
C'est que bon, il sera plutôt, je pense, en 2016 chez Actes Sud, qui est mon éditeur tolérant, on va dire. Mais qu'en revanche, si Monsieur Vincent est d'accord, on fera un texte ensemble très bientôt.
Ah, chouette.
Voilà.
Merci, vous avez une bonne nouvelle. Donc il reviendra peut-être nous en parler, si on peut en parler devant un public, hein, parce que c'est pas certain.
Mmh. Voilà. Oui, ça sera un peu spécial.
C'est un peu spécial, on le fera derrière. Mmh. Bon, merci beaucoup à vous et au revoir.
Merci.